les mariages, les faits de famille importants, distribuant en notes brèves les cas d'après sa théorie de l'hérédité. C'était une grande feuille de papier jauni aux plis coupés par l'usure, sur laquelle s'élevait, dessiné d'un trait fort, un arbre symbolique dont les branches étalées, subdivisées, alignaient 5 rangées de larges feuilles, et chaque feuille portait un nom, contenait, d'une écriture fine, une biographie, un cas héréditaire. Une joie de savant s'était emparée du docteur, devant cette œuvre de 20 années, où se trouvaient appliquées, si nettement et si complètement, les lois de l'hérédité fixées par lui. Regarde donc, fillette, tu en sais assez long, tu as recopié assez de mes manuscrits pour comprendre. N'est-ce pas beau, un pareil ensemble, un document si définitif et si total, où il n'y a pas un trou? On dirait une expérience de cabinet, un problème posé et résolu au tableau noir. Tu vois, en bas, voici le tronc, la souche commune, tante Dide. Puis, les 3 branches en sortent, la légitime, Pierre Rougon, et les 2 bâtardes, Ursule Macquart et Antoine Macquart. Puis, de nouvelles branches montent, se ramifient. D'un côté, Maxime, Clotilde et Victor, les 3 enfants de Saccard, et Angélique, la fille de Sidonie Rougon. De l'autre, Pauline, la fille de Lisa Macquart, et Claude, Jacques-Étienne, Anna, les 4 enfants de Gervaise, sa sœur. Là, Jean, leur frère, est au bout. Et tu remarques, ici, au milieu, ce que j'appelle le nœud, la poussée légitime et la poussée bâtarde, s'unissant dans Marthe Rougon et son cousin François Mouret, pour donner naissance à 3 nouveaux rameaux, Octave, Serge et Désiré Mouret. Tandis qu'il y a encore, issus d'Ursule et du chapelier Mouret, Silvère, dont tu connais la mort tragique, Hélène et sa fille Jeanne. Enfin, tout là-haut, ce sont les brindilles dernières, le fils de ton frère Maxime, notre pauvre Charles, et 2 autres petits morts, Jacques-Louis, le fils de Claude Lantier, et Louisé, le fils d'Anna Coupeau. En tout, 5 générations. Un arbre humain qui, à 5 printemps déjà, à 5 renouveaux de l'humanité, a poussé des tiges sous le flot de sève de l'éternelle vie. Il s'animait. Son doigt se mit à indiquer les cas sur la vieille feuille de papier jauni, comme sur une planche anatomique. Et je te répète que tout y est. Vois donc, dans l'hérédité directe, les élections, celle de la mère, Silvère, Lisa, Désiré, Jacques, Louisée, toi-même, celle du père, Sidonie, François, Gervaise, Octave, Jacques-Louis. Puis, ce sont les 3 cas de mélange, par soudure, Ursule, Aristide, Anna, Victor, par dissémination, Maxime, Serge, Étienne, par fusion, Antoine, Eugène, Claude. J'ai dû même spécifier un 4e cas, très remarquable, le mélange équilibre, Pierre et Pauline. Et les variétés s'établissent. L'élection de la mère, par exemple, va souvent avec la ressemblance physique du père. Ou c'est le contraire qui a lieu. De même que, dans le mélange, la prédominance physique et morale appartient à un facteur ou à l'autre, selon les circonstances. Ensuite, voici l'hérédité indirecte, celle des collatéraux. Je n'en ai qu'un exemple bien établi, la ressemblance physique frappante d'Octave Mouret avec son oncle Eugène Rougon. Je n'ai aussi qu'un exemple de l'hérédité par influence. Anna, la fille de Gervaise et de Coupeau, ressemblait étonnamment, surtout dans son enfance, à Lantier, le premier amant de sa mère, comme s'il avait imprégné celle-ci à jamais. Mais où je suis très riche, c'est pour l'hérédité en retour. Les 3 cas les plus beaux, Marthe, Jeanne et Charles, ressemblant à tante Dide, la ressemblance sautant ainsi une, deux et trois générations. L'aventure est sûrement exceptionnelle, car je ne crois guère à l'atavisme. Il me semble que les éléments nouveaux apportés par les conjoints, les accidents et la variété infinie des mélanges, doivent très rapidement effacer les caractères particuliers, de façon à ramener l'individu au type général. Et il reste l'innéité. Hélène, Jean, Angélique. C'est la combinaison, le mélange chimique où se confondent les caractères physiques et moraux des parents sans que rien d'eux semble se retrouver dans le nouvel être. Il y eut un silence. Clotilde l'avait écouté avec une attention profonde, voulant comprendre. Et lui, maintenant, restait absorbé, les yeux toujours sur l'arbre, dans le besoin de juger équitablement son œuvre. Il continua lentement, comme s'il se fût parlé à lui-même. « Oui, cela est aussi scientifique que possible. Je n'ai mis là que les membres de la famille, et j'aurais dû donner une part égale aux conjoints, aux pères et aux mères venus du dehors, dont le sens est mêlé au nôtre et l'a dès lors modifié. J'avais bien dressé un arbre mathématique, le père et la mère se léguant par moitié à l'enfant, de génération en génération. De façon que, chez Charles, par exemple, la part de tante Dide n'était que d'un douzième. Ce qui était absurde, puisque la ressemblance physique y est totale. J'ai donc cru suffisant d'indiquer les éléments venus d'ailleurs en tenant compte des mariages et du facteur nouveau qu'ils introduisaient chaque fois. Ah, ces sciences commençantes, ces sciences où l'hypothèse balbutie et où l'imagination reste maîtresse, elles sont le domaine des poètes autant que des savants. Les poètes vont en pionnier, à l'avant-garde, et souvent qu'ils découvrent les pays vierges, indiquent les solutions prochaines. Il y a là une marge qui leur appartient, entre la vérité conquise, définitive, et l'inconnu, d'où l'on arrachera la vérité de demain. Quelle fresque immense à peindre! Quelle comédie et quelle tragédie humaine colossale à écrire avec l'hérédité, qui est la genèse même des familles, des sociétés et du monde. Les yeux devenus vagues, il suivait sa pensée. Il s'égarait. Mais, d'un mouvement brusque, il revint au dossier, jetant l'arbre de côté, disant